Cinéma Cinéma, Jacques Viguier, bonjour. Aujourd'hui, Cannes, les Palmes d'Or. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Le Festival de Cannes est un festival de cinéma international, donc il se déroule chaque année à Pâques durant une douzaine de jours, et cela pendant la seconde quinzaine du mois de mai. Alors il y a d'autres festivals, il y a d'autres prix. À l'extérieur, dans d'autres États, vous avez le Festival de Venise qui est assez connu, où on décerne un lion, lion d'or, lion d'argent. Au Festival de Berlin, ce sont des ours. Et donc à Cannes, c'est la Palme d'Or. Donc la mise en place du Festival de Cannes aurait dû avoir lieu en 1939. Et c'était une idée de Jean C, qui était le ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts du Front populaire. Il faut savoir que le Front populaire, c'est un moment où la gauche va arriver au pouvoir avec Léon Blum, et où des modifications de législation vont être faites, notamment les congés payés, etc. Bon, je n'insiste pas sur ces points, mais bon, peut-être c'est nécessaire quand je vois que certains députés ne savent pas qui était Pétain, d'autres ne savent peut-être pas qu'il y a eu une phase cruciale pour la gauche qui était le Front populaire. Donc c'est dans cette logique culturelle et de culture en quelque sorte populaire que va apparaître ce festival, qui était appelé le Festival international du film à partir de 1946. Et après, on a changé donc pour dire Festival de Cannes. Il se déroule au départ jusqu'en 1950, en septembre. Et depuis cette date-là, juste en mai. Pourquoi ces dates? Alors là, je vais vous dire quelque chose auquel vous ne pensez pas et qu'on ne dit pas très souvent. Ce sont pour des raisons commerciales. En effet, le Festival de Cannes se déroule avant la saison, avant la haute saison qui a lieu juin, juillet, août, et on a voulu occuper les hôtels, les restaurants, les boutiques pour anticiper sur cette saison. Et je vous donne aussi un élément sur le Festival de Deauville qui a lieu, lui, en septembre pour les mêmes raisons. Juin, juillet, août, haute saison, septembre, moins de personnes, donc on va mettre en place un festival pour faire fonctionner les commerces dans ce qu'on peut appeler une zone creuse, un moment où il y a moins de monde sur place. Donc la volonté d'animer la saison morte d'une ville va marcher, puisqu'il y a un nombre infini d'invités, de personnages type journalistes, historiens et acteurs, actrices, etc., qui vient à Cannes. Donc le festival a attribué la Palme d'Or, mais il y a aussi d'autres prix. Parce qu'en dehors de la Palme d'Or, quand on voit le festival, il y a généralement le Grand Prix, le prix du jury, le prix d'interprétation masculine et le prix d'interprétation féminine, et parfois un prix spécial, un prix de la mise en scène, un prix du scénario. Donc il y a chaque fois un nombre de prix importants qui est attribué, et comme on ne peut généralement pas attribuer au même film plusieurs prix, on a un certain nombre de films qui vont être primés. Alors, ce jury du festival se réunit pour une seule fois, c'est-à-dire que le jury est temporaire, chaque année il va changer. On a un président du jury et un certain nombre de personnes qui font partie de ce jury, maintenant avec un équilibre homme-femme notamment, avec certains continents qui sont représentés. Donc, un festival qui, à la différence du prix Goncourt, où c'est le même jury depuis des années qui va attribuer le prix Goncourt, pour le Festival de Cannes, donc ça va changer. Il y a aussi des petits festivals comme Angoulême ou à Luchon, par exemple, et donc dans d'autres endroits, des festivals qui sont moins connus. Alors, je vous l'ai dit, zone creuse, mais aussi, petit à petit, à côté de la compétition officielle, il y aura d'autres possibilités d'apparition de films. Donc, on voit créer en 1962 la Semaine internationale de la critique, puis en 1969 la quinzaine de réalisateurs, la section Un certain regard, et vous avez aussi la Caméra d'or qui va récompenser le meilleur premier film. Alors, pour ce festival, il y a eu des Palmes d'Or qui étaient ex aequo. Et on a 9 réalisateurs qui ont été honorés de cette Palme d'Or à 2 reprises. On a Christian Mounjou, par exemple, pour la Palme d'Or de 2026, qui avait eu la Palme d'Or en 2007 pour 4 mois, 3 semaines et 2 jours. Alors, je parlais de films qui sont ex aequo. Et donc, parmi ces films ex aequo, nous avons le film Francis Ford Coppola en 1974, Apocalypse Now. Il faut que je vous précise que je vais faire preuve aujourd'hui de subjectivité. Alors effectivement, je fais toujours preuve de subjectivité, mais là, il va s'agir d'analyser les Palmes d'Or et de voir si elles sont méritées, imméritées. Donc voilà ma subjectivité. Donc pour Francis Ford Coppola, il y a Apocalypse Now en 79 et il y avait Conversation secrète en 1974. C'était Gene Hackman qui était un preneur de son pour donner des renseignements à certains services, et puis lui-même se croit surveillé et devient de plus en plus paranoïaque. Alors, la liste de ces doubles palmes d'or, je vous donne rapidement, parce que je ne vais pas insister là-dessus. On a Billy Auguste en 1988, Pelé le Conquérant, et 92, les Meilleures Intentions. Alors, Costa Rica a une palme d'or en 85, Papa est en voyage d'affaires, et 95, Underground. Pour Shoshei Imamura, 83, Balade Narayama, et Anguille en 97. Donc, 83-97. Les Frères Dardenne en 99 pour Rosetta, où il y avait eu aussi un prix d'interprétation pour l'actrice, et Palme d'Or aussi pour L'Enfant. Ensuite, Michael Haneke, 2009 pour Ruban Blanc et 2012 Amour. Alors, Amour, c'est l'évolution vers la mort d'un couple âgé. Et je vous avoue que voir Amour une seule fois, ça suffit parce qu'on est vraiment épuisé moralement quand on en sort. Ken Loach, célèbre réalisateur, 2006, Le Vent se lève, 2016, Moi, Dylan Blake. Ruben Östlund, alors là, 2017 The Square, 2022 Sans filtre. Je vous avoue que donner deux palmes d'or à ce réalisateur, ça m'a laissé vraiment songeur. Et on a en 2026 une palme d'or pour Fjord, et il l'avait eu Christian Mungiu en 2017, donc 4 mois, 3 semaines, 2 jours, comme palme d'or. Et chaque fois on peut discuter, mais ici par exemple, je trouvais que L'être aimé en 2026 de Rodrigo Sorogoyen avec Javier Bardem et Victoria Luengo était quand même extrêmement, extrêmement bien. Alors parmi les palmes d'or, certaines sont vraiment, je dirais, un petit peu intellectuelles, pas nécessairement acceptées du grand public. Et par contre, il y a des palmes d'or qui vont être conduite à un succès énorme du public. Je vais isoler en particulier Pulp Fiction de Quentin Tarantino. La première édition du festival s'est déroulée du 20 septembre au 5 octobre 1946, après la haute saison, avant de passer au mois de mai. Donc au départ, il s'agit bien du Grand Prix du Festival International du Film. Donc Festival International du Film, et on a plusieurs films qui sont mis en avant. Et j'en retiens un en 1953, qui est Le Salaire de la Peur d'Henri-Georges Clouzot, qui raconte comment deux camions viennent apporter de la nitroglycérine et vont, pour certains, exploser, avoir des accidents. Et Yves Montand va écraser en partie Charles Vanel dans une plaque de goudron. Donc tout cela, c'est un très bon film. Alors, la Palme d'Or, la première Palme d'Or, c'est 1955. Elle est attribuée à Marty de Delbertman. Alors là, c'est un petit film, je dirais presque anodin, sur Ernest Borgnine, qui est un acteur qui a fait souvent des seconds rôles, qui est amoureux d'une jeune femme, qui n'ose pas lui dire, ses copains se moquent de lui, et puis finalement, il va se déclarer. 1956, Le Monde du Silence. Louis Malle, mais aussi Jacques-Yves Cousteau. C'est comme ça que le commandant Cousteau, qui fera de nombreuses émissions dans les années 70 et 80 pour la télévision, va apparaître auprès du grand public. Palme d'Or, donc, de 1956, Le Monde du Silence. Après, parfois, des Palmes d'Or, 1957, La Loi du Seigneur de William Wyler, qui est quand même extrêmement moyen et qui a extrêmement, extrêmement vieilli. Du côté de l'Italie, vous avez la Dolce Vita de Federico Fellini en 1960 et on voit Federico Fellini qui prend déjà une place particulière dans le cinéma italien. Alors, on a les Palmes d'Or qui ont été attribuées deux fois. On a aussi les Palmes d'Or ex aequo. Alors, les Palmes d'Or ex aequo, est-ce que chaque fois les deux Palmes d'Or sont vraiment réellement attribuées de manière normale ou positive ? Vous avez par exemple, en 1961, ex aequo, une aussi longue absence de Henri Colpi et Viridiana de Louis Buñuel. On peut dire que Buñuel, lui, est resté par rapport à l'autre. Cinéma italien, un grand, grand réalisateur, il s'appelle Luchino Visconti, qui gagne la Palme d'Or en 1963 avec Le Guépard, film où on a Burt Lancaster, qui fait un vieil aristocrate et qui va pousser son neveu Alain Delon à épouser une fille de la bourgeoisie en disant que pour que tout change, il faut que rien ne change. Pour que rien ne change, il faut que tout change, en fait. Après, alors là, je m'arrête sur lui parce que je trouve que c'est complètement immérité. J'aime pas le réalisateur. 1966, Un homme et une femme de Claude Lelouch qui fonctionne comme d'habitude, mais là, on n'est pas encore habitué à ce qu'il fait. La caméra qui tourne dans tous les sens. Et un amour entre les deux personnages, Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant. Mais ex aequo, on a ces messieurs-dames de Pietro Germi. Bon, le second est totalement oublié, mais à l'époque, le cinéma italien est dans une position importante. C'est le grand cinéma italien qui apparaît dans les années 60-70. Après, donc, Michelangelo Antonioni, 1967. 1968, Interruption, en solidarité avec le mouvement des étudiants et des ouvriers, donc pas de prix décerné. En 1970, MASH de Robert Altman. Alors ce qui est bizarre, c'est que Robert Altman a fait des films remarquables, et MASH, c'est peut-être son film le moins personnel, qui se déroule pendant les guerres de Corée, avec des scènes comiques ou de dérision par rapport à l'armée, avec Donald Sutherland en particulier. Alors, on a encore une fois ex aequo pour deux réalisateurs italiens en 1972, La classe ouvrière va au paradis de Elio Petri et La Fermatei de Francesco Rosi. Donc deux très bons films. Effectivement, le cinéma italien de l'époque, je vous le disais, c'est Risi, Monicelli, Soca, Scola, etc. En 1973, L'épouvantail de Jerry Schatzberg avec Al Pacino et Gene Hackman. Alors je relève les deux acteurs parce que Gene Hackman est présent dans La Palme d'Or de 1973. Mais aussi dans celle de 1974, La Conversation, qui est un film qui est vraiment original, je l'évoquais tout à l'heure. Donc 1974, La Conversation avec Gene Hackman, et ensuite 1979, Apocalypse Now, pour Francis Ford Coppola. Taxi Driver, film extraordinaire, Martin Scorsese, qui est révélé par ce film réellement. Il avait fait d'autres sections, mais là, il a la Palme d'Or, avec Robert De Niro, en chauffeur de taxi complètement perdu, qui va essayer de sauver Jodie Foster du proxénète Harvey Keitel. Toujours cinéma italien, en 1977-78, Padrone, L'Arbre aux Sabots, donc Apocalypse Now en 79. Alors là, ex aequo, et l'ex aequo, c'est Le Tambour de Volker Schondorf. Alors, regardez qu'est-ce qui reste aujourd'hui, Apocalypse Now, et Le Tambour, il ne reste pas tellement. À nouveau ex aequo en 1980, All the Jazz de Bob Fosse et Kagemusha de Akira Kurosawa, des films totalement différents. All the Jazz suit un chorégraphe qui va progressivement sombrer dans diverses addictions et on va écouter la musique de All That Jazz. Je ne reprends pas les réalisateurs qui ont eu deux palmes d'or. Par contre, à nouveau, des ex-échos comme 1982, Missing de Costa Gavras et Yol de Ilmaz Güney et Sherif Goren. Dans ces deux-là, bon, ils ont tous les deux à peu près tenu, même s'ils sont beaucoup moins connus que d'autres palmes d'or. On a Paris, Texas en 1984 de Wim Wenders et certains découvrent un comédien qui s'appelle Harry Dean Stanton. Et il le découvre après 30 ans de carrière. Alors c'était arrivé aussi pour Bruce Dern, qui avait 30 ans de carrière, mais on les découvre. Ils avaient fait des seconds rôles, on ne les connaît pas. Et l'actrice principale, c'est Natasha Kinski, qui est la fille de Klaus Kinski, qui était un acteur complètement fou, et qui notamment avait violé sa fille. Par la suite, il y a « Sous le soleil de Satan ». Alors je m'arrête là, 1987, Maurice Pialat, « Sous le soleil de Satan ». Il faut dire qu'aujourd'hui, Maurice Pialat ne pouvait pas tourner parce qu'il est d'une violence psychologique, presque physique, avec ses acteurs. Et on peut souligner par exemple que Loulou était un film avec Depardieu, il s'était fâché, et puis quand Depardieu voit le film, Loulou, il se dit « Ah ouais, c'est très bien », il reprend contact avec Maurice Pialat et ils obtiennent une palme d'or avec « Sous le soleil de Satan ». Une parenthèse et un film police ou Depardieu aussi. Et Sophie Marceau joue à l'intérieur du film. Elle s'est fâchée, bien sûr, à Maurice Pialat. Pourtant, c'est le meilleur film qu'elle ait tourné, mais elle ne s'est pas réconciliée. Alors, on a une particularité avec Barton Fink en 1991 de Joel Ethan Coen, bon, qui mérite bien la Palme d'Or. Le président du jury est Roman Polanski et il va tenir, ce qui ne s'est jamais fait, à attribuer deux autres prix à la Palme d'Or, dont Barton Fink Palme d'Or, prix de la mise en scène aussi et prix d'interprétation masculine pour John Turturro. Donc ça, c'est vraiment unique. 1993, la leçon de piano et ex aequo avec Adieu ma concubine. Donc Jeanne Campion d'un côté, Kaïgé Chen pour l'autre. Les deux films sont remarquables et on peut dire qu'ils sont restés pour le futur. 1974, Pulp Fiction, dont on a écouté la musique Quentin Tarantino. Alors là, une originalité dans la construction, les scènes qui s'entremêlent et un film qui, aujourd'hui encore, est absolument remarquable et peut être vu avec un grand, grand, grand plaisir. Et on a Tourman et Travolta qui font en particulier une danse particulièrement originale pendant le film. Alors, films des fois qui sont vraiment un peu trop intello, j'ai utilisé le terme. Bon, on peut utiliser d'autres termes. L'éternité est un jour de Theo Angelopoulos. Alors, Theo Angelopoulos, généralement, il fait des films assez lents qui peuvent être considérés comme très bons, mais qui vont durer 3 heures. Donc, c'est parfois difficile à suivre. Le pianiste Roman Polanski, c'est lui qui est primé alors qu'il était dans le jury quelques années avant, donc 2022. Alors, on a Gus Van Sant, 2003, qui fait Elephant. Et Gus Van Sant a vraiment fait des films qui étaient extrêmement, extrêmement bons. Et il mérite cette Palme d'Or. En 2004, quelque chose d'inhabituel, sauf avec Le Monde du Silence, c'est un documentaire. C'est Michael Moore qui fait un documentaire et qui a la Palme d'Or. Ensuite, donc, les Dardennes en ont une deuxième, Ken Loach aussi. Christian Moujou a la première, il aura la seconde en 2026. Entre les murs de Laurent Comté, c'est la description d'un lycée avec tout ce que cela comporte de difficultés, de rapports entre les élèves et les enseignants et de difficultés de concentration pour les élèves. Alors, on va écouter une musique d'un film qui a été aussi un grand succès, tout en étant vraiment une réussite, je dirais, au plan art et essai. Donc, on va écouter la musique de Parasite. Musique de Parasite. Thank you. La vie d'Adèle, Abdelatif Kechiche, 2013. Alors, il faut s'arrêter un instant sur ce film. La Palme d'Or était attribuée au réalisateur, puis on avait aussi honoré les deux actrices. Alors, ces deux actrices avaient participé de manière tout à fait, je dirais, calme et normale à cet hommage. Et puis, deux mois après, elles vont dénoncer le harcèlement du réalisateur. Alors, il est vrai que ce réalisateur a fait des films dans lesquels la place de la femme est souvent ambiguë, voire plus. Et ici, ce qui est critiqué, c'est la première scène qui dure pendant un certain moment, une scène d'amour entre les deux actrices. Donc, une Palme d'Or qui a été contestée dans la mesure où, par la suite, Kechiche a été vraiment critiqué et remis en cause. 2015. Alors là, 2015, je dirais, c'est une erreur absolue. Et c'est l'inverse en 2024. Pourquoi ? Je m'explique. 2015, c'est Dipan de Jacques Audiard qui est récompensé. En fait, je considère que ce film ne mérite pas la Palme d'Or. Par contre, en 2024, c'est à Anora de Schindler qu'on va l'attribuer. Et il y a Emilia Pérez de Jacques Audiard à nouveau. Eh bien, la Palme d'Or aurait dû être attribuée à Emilia Pérez. Parce que Anora ne restera pas très longtemps dans l'histoire, à mon avis. Alors, Parasite, en 2019, Parasite Bong Joon-ho, qui montre une famille qui se fait embaucher par une famille plus riche. Et il y a dans ce film un revirement extraordinaire de scénario. C'est une des rares fois où on voit ce type de renversement. Alors, je ne vous détaille pas la situation qui va apparaître, mais c'est vraiment quelque chose d'absolument incroyable. Nous avons deux palmes d'or pour des réalisatrices françaises. 2021, Titane de Julia Ducournau. Et 2023, Anatomie d'une chute, Justine Trier. Donc deux palmes d'or qui sont vraiment méritées, avec deux films qui sont vraiment extraordinaires et qui devraient rester dans l'histoire du cinéma. En 2026, c'est Fjord de Christian Mungiu. Donc c'est une palme d'or à nouveau qui est attribuée au même réalisateur. Bon, là aussi, c'est peut-être subjectif, mais je considère que vraiment, L'être aimé de Rodrigo Sorogoyen avec Javier Bardem et Victoria Luengo était quand même un film peut-être à récompenser de manière importante. Toujours ma subjectivité. Donc voilà tout pour toutes ces palmes d'or. Hein. On peut considérer qu'il y a dans l'histoire des films récompensés qui ne le mériteraient pas et d'autres qui le mériteraient qui ne le sont pas. Et ça vaut aussi pour Venise avec le Lion d'Or ou Berlin avec l'Ours. Donc voilà pour ce festival de Cannes qui est quand même un festival qui réunit beaucoup de monde et qui fait la promotion de manière générale du cinéma. C'est cela qui paraît important de retenir, la promotion du cinéma. C'était Cinéma Cinéma, une émission de Jacques Viguier. Avec à la technique Sacha Gauchy. Vous pouvez retrouver les podcasts de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie ainsi que sur l'application pour smartphone. Bonne semaine à tous et à toutes. Thank you.